Bonjour à toutes et à tous, Boker Tov. Le Conseil national de sécurité israélien alerte sur l'intensification des projets terroristes visant les Juifs et les Israéliens à l'étranger.
En Allemagne, l'AfD a remporté une victoire historique sans Sachs. Le parti d'extrême droite a 43,8% des voix. La communauté juive s'inquiète.
C'est aujourd'hui que s'ouvre en Israël le dépôt des listes électorales à J-50 du grand scrutin législatif du 27 octobre prochain.
Et enfin, l'ambassade d'Israël exige des excuses de la Belgique suite aux condamnations d'une frappe de Tsahal en 2024 qui visait en réalité un terroriste du Hamas. Le rapport du Conseil national de sécurité israélien est tombé hier et il alerte l'Iran et le Hamas étendent leur réseau terroriste contre les Juifs dans le monde.
Un responsable à la sécurité intérieure a déclaré que Téhéran avait considérablement renforcé ses relais et son infrastructure pour mener des attaques à l'étranger. C'est l'un des leviers stratégiques de la République islamique, affirme ce haut fonctionnaire israélien. Hier, les bureaux à la sécurité nationale ont émis un avertissement destiné aux Israéliens désireux de se rendre à l'étranger pour les fêtes de Tichri, les incitant à faire preuve d'une vigilance accrue au regard du risque élevé de tentatives d'attentats durant cette période du calendrier juif. Le document fait état d'une hausse de la motivation et des capacités des organisations terroristes de la région à frapper des cibles juives et israéliennes hors d'Israël. Depuis le début de la guerre, 25 juifs et israéliens ont été tués dans des attentats à l'étranger. L'Iran et ses relais restent au centre de la menace. Téhéran mobilise des agents, des organisations terroristes et des réseaux criminels pour viser des ambassades, des responsables israéliens, des membres des forces de sécurité, des institutions communautaires et des touristes. L'Azerbaïdjan, la Turquie et les Émirats arabes unis figurent parmi les zones particulièrement exposées à ces infrastructures iraniennes. Le rapport relève également un changement d'échelle dans l'activité du Hamas. L'organisation terroriste cherche à établir des réseaux en Europe et dans d'autres régions en s'appuyant sur des structures locales et des Palestiniens installés à l'étranger. L'objectif est de préparer des attentats de vengeance ou des opérations spectaculaires contre des Juifs et des Israéliens. Un responsable à la sécurité nationale évoque, je cite, des efforts jamais observés auparavant. Les services de sécurité israéliens ont d'ailleurs déjoué des dizaines d'attentats terroristes depuis le début de l'année. Et selon la chaîne israélienne N12, plusieurs attentats ont été déjoués quelques minutes seulement avant leur exécution. L'Iran, le Hezbollah, mais aussi le Hamas se cachent derrière ces opérations. On est revenu sur ce sujet à 8h30 avec notre invité Pierre Martinet, ancien cadre du service action de la DGSE. Retrouvez d'ailleurs cet entretien, comme tous ceux de cette matinale, sur radiojudaïca.be et sur l'application Radio Judaïca. N'oubliez pas aussi également le groupe WhatsApp de la radio.
Et dans ce contexte tendu, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, rappelle une fois de plus qu'il veut faire tomber le régime iranien.
J'entends mener à bien ma mission de faire tomber ce régime. Sa fin est proche et de toute façon, a déclaré le chef du gouvernement israélien, précisant qu'en cas d'attaque iranienne contre Israël, Téhéran subirait un coup au-delà de son imagination. Le régime iranien est faible, il lutte actuellement pour sa survie, il est à l'agonie, indique Benjamin Netanyahou. Ce matin, Donald Trump a publié une carte de l'Iran sous forme de son propre visage.
Et Tsahal organise un exercice surprise pour juger de sa préparation à de nouvelles attaques et envoyer un message aux ennemis d'Israël.
L'armée israélienne est capable, préparée et prête à défendre l'État d'Israël et prête à agir rapidement, à attaquer avec force quiconque tente de nous nuire. L'ennemi en paiera le prix fort immédiatement, a déclaré le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, qui a bien fait de ne pas informer les plus hauts gradés de l'armée de cet exercice surprise. Et pour cause, l'objectif de cette simulation grandeur nature était de vérifier le niveau de préparation de l'armée israélienne sur tous les fronts. Parmi les scénarios testés figurait l'infiltration de 10 à 15 terroristes libanais dans une communauté frontalière, une attaque terroriste sur la route 60 en Judée-Samarie, une infiltration dans une de ces localités, des attaques de roquettes sur Tel Aviv et des combats le long de la ligne jaune dans la bande de Gaza. Le lieutenant-colonel Eyal Zamir a par ailleurs indiqué que le contexte régional était tendu et instable au regard de la situation au sud Liban et dans le détroit d'Ormuz. Et justement, des révélations du Financial Times sur le détroit d'Ormuz viennent de tomber. Les États-Unis ont mené pendant 4 mois une opération secrète de déminage du détroit.
Des petites équipes des Navy Seals ont travaillé principalement la nuit à l'aide de sonars, de robots sous-marins et de navires autonomes. Les plongeurs ont repéré les mines iraniennes avant de les neutraliser avec des charges explosives. Aucun blessé américain n'a été signalé au cours de ces interventions dangereuses. L'Organisation maritime internationale estimait en juin dernier qu'environ 80 mines se trouvaient sur ses principales voies de navigation. Fin août, Donald Trump a affirmé qu'elles étaient retirées ou détruites. Pourtant, les professionnels du transport maritime restent prudents. Rien ne permet d'affirmer que l'ensemble du détroit d'Ormuz soit débarrassé de ces mines. La route maritime située près des côtes d'Oman serait pourtant désormais de nouveau accessible aux bateaux. Et du côté du front nord, le président libanais Joseph Aoun exhorte Washington à mettre fin aux attaques israéliennes au sud Liban.
Les frappes menées par Israël ont endommagé des bâtiments gouvernementaux et détruit un hôpital. Toutes ces attaques constituent une dangereuse escalade touchant les institutions de l'État libanais et les établissements de santé, a déclaré Joseph Aoun dans un communiqué appelant les États-Unis et d'autres pays à agir, je cite, d'urgence pour mettre fin à ces violations du cessez-le-feu. L'armée israélienne a déclaré que les frappes aériennes dans le sud du Liban étaient une riposte à une attaque de drones du Hezbollah et visaient des membres du groupe terroriste et son infrastructure. Les négociations entre représentants israéliens et libanais devraient reprendre, elles, la semaine prochaine du côté d'Europe. Jared Kushner affirme que les États-Unis commencent seulement à mesurer l'ampleur de la militarisation de la bande de Gaza, le Hamas et autres milices comprises.
S'exprimant hier à Kiev, le ministère américain a estimé que le niveau atteint par le mouvement terroriste dépassait l'entendement et rendrait le désarmement du territoire particulièrement difficile. Selon lui, Washington négocie avec le Hamas depuis plus de 4 mois. L'organisation terroriste aurait signé un accord l'engageant à déposer les armes. Jared Kushner considère qu'aucune nouvelle autorité ne pourra administrer Gaza tant que des groupes armés y resteront actifs. Il a également taclé le gouvernement israélien sur le dossier gazaoui hier.
Leurs élections rendent la situation aberrante. Le gouvernement israélien prend des décisions irrationnelles à certains égards sur la bande de Gaza, a affirmé l'émissaire américain. Il accuse par ailleurs Israël de bloquer la mise en place du plan en 15 points de désarmement du Hamas, mise en place par le Conseil de la paix, tout en précisant tout de même que les deux pays restent d'accord sur la situation finale du territoire gazaoui. Malgré ces difficultés, l'administration américaine se dit déterminée à poursuivre ses efforts en faveur du désarmement du Hamas et de la mise en place d'une nouvelle gouvernance dans la bande de Gaza. En attendant, ce week-end, suite à l'explosion d'un engin explosif dans la zone de la ligne jaune, ça a frappé des sites d'infrastructures terroristes du Hamas dans la bande de Gaza.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ordonne le démantèlement d'avant-postes illégaux en Judée-Samarie.
Une décision prise suite aux pressions exercées par l'administration américaine sur le Premier ministre israélien, selon plusieurs proches du dossier cité par l'agence de presse Reuters. Tous ces avant-postes sont illégaux au regard du droit international, mais bénéficient du soutien financier du gouvernement israélien. Et cela nous pose problème, affirme un haut responsable américain. Hier, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a pointé du doigt les violences commises par les éléments juifs radicaux de Judée-Samarie et a réclamé des autorités israéliennes des sanctions exemplaires à leur encontre. En Allemagne, le parti d'extrême droite AfD a remporté dimanche une victoire historique en Saxe avec 43,8% des voix et 39 sièges sur 83. Il échoue cependant à 3 sièges de la majorité absolue.
L'AfD ne pourra donc pas gouverner seule et les autres formations politiques refusent toujours de former une coalition avec elle. L'AfD qui devance très largement la CDU qui recueille seulement 17,2% des voix et 15 élus. La tête de liste de l'AfD a qualifié ce résultat d'historique, affirmant que son parti était en train de reprendre le pays. Malgré cette victoire spectaculaire, l'AfD ne devrait donc pas devenir à ce stade le premier parti d'extrême droite à diriger un land allemand depuis 1945.
Et ce résultat provoque néanmoins une vive inquiétude, notamment dans la communauté juive et à l'ambassade d'Israël.
Oui, l'AfD assume sans vergogne un révisionnisme historique envers les crimes du Troisième Reich et y ajoute une ligne anti-immigration et pro-russe inquiétante, et pas seulement pour les Juifs. À 18h après l'annonce du triomphe de l'AfD, un collectif d'artistes a fait retentir des sirènes. Des familles, des syndicats, des collectifs Greenpeace et les grands-mères contre l'extrême droite sont venus en signe de deuil, disent-ils. Les responsables des mémoriaux de Buchenwald et de Mittelbau-Dora réclament une meilleure protection légale des lieux de mémoire. Il redoute qu'une arrivée de l'extrême droite dans un gouvernement régional ne menace la mémoire et le travail consacré aux crimes du nazisme. L'ambassadeur d'Israël en Allemagne, Ron Prosor, s'alarme lui aussi pour l'avenir de la vie juive dans le pays. Il dénonce une double menace, la progression électorale de l'AFD à l'extrême droite et à l'extrême gauche, la diffusion de contenu appelant à la violence contre les Juifs et les Israéliens. Il appelle les autorités allemandes à passer des déclarations aux actes. Dernière ligne droite avant le dépôt des listes électorales en Israël. Benjamin Netanyahou cherche encore la perle rare au Likoud. Ofer Winter écarte l'alliance avec Bezalel Smotrich et Naftali Bennett présente sa liste.
Selon la chaîne israélienne N12, le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait proposé la troisième place sur la liste du Likoud à la Knesset au maire de la ville de Beersheva, Rubik Danilovitch. Or, ce dernier aurait refusé. Le chef du gouvernement israélien dispose toujours de trois places réservées au sein de sa liste. Benjamin Netanyahou n'est pas encore parvenu à convaincre Ofer Winter de s'allier avec le duo Bezalel Smotrich et Moshe Feingling. L'ancien chef de la brigade Givati devrait, selon toute vraisemblance, faire cavalier seul pour ses prochaines élections. L'ex-ministre de la Justice Ayelet Shaked a déclaré quant à elle qu'elle ne se présenterait pas aux prochaines élections. Pendant ce temps, son ancien coéquipier Naftali Bennett a présenté sa liste aux côtés de Yair Lapid. Les parlementaires les plus expérimentés, les plus tenaces, les meilleurs directeurs généraux du pays, les combattants et les héros du 7 octobre qui ont sauvé le pays se sont joints à nous pour le sauver à nouveau, a déclaré l'ex-premier ministre de l'État d'Israël.
Et le chef du parti Maison Sioniste, Rally Trooper, fusionne sa liste avec celle de Gadi Eisenkot.
Et l'ancien ministre israélien de la Culture et des Sports met fin à son association avec le chef du parti des réservistes de Yoaz Hendel. Rally Trooper occupera la sixième position sur la liste du parti Yachar, tandis que les autres membres de son parti, Shira Shapira et Eliasaf Peretz, deux membres des familles endeuillées, occuperont, eux, la dixième et vingtième place de la liste dirigée par l'ancien chef d'état-major de Tsahal.
Et enfin, c'est du côté de Israël Beiteinu, le parti d'Avigdor Lieberman, qu'on a aussi dévoilé une liste électorale avec un père endeuillé et le porte-parole francophone de Tzahal, Olivier Rafovitch, à la 19e place.
Avigdor Lieberman dirige une liste de 25 candidats qui comprend l'ex-maire de la ville de Bet-She'an dans le nord d'Israël et ex-membre du Likoud Rafi Ben-Shetrit dont le fils Shimon a été tué au combat le 7 octobre 2023. La colonelle Talia Lankri, ancienne chef adjointe du Conseil national de sécurité, se place en troisième position, suivie des députés sortants du parti Oded Forer et Yulia Malinovsky. En sixième position figure Sharon Sharabi, le frère d'Eli Sharabi, otage du Hamas qui a été libéré, et de Yossi Sharabi, assassiné lui en captivité aux mains du mouvement terroriste palestinien. Dani Luz, ancien député du Likoud, occupe la 10e place sur la liste. Un autre francophone est présent dans cette liste, Olivier Rafovitch, porte-parole francophone de Tzahal. Le parti Israël Beiteinu est crédité entre 8 et 11 mandats d'intention de vote. L'ambassade d'Israël en Belgique exige des excuses des autorités du pays suite aux condamnations d'une frappe de Tzahal qui visait en réalité un terroriste du Hamas.
L'affaire remonte au mois d'avril 2024. Les bureaux de la diplomatie belge avaient convoqué l'ambassadrice d'Israël, Idit Rosenzweig-Abou, pour condamner une frappe de Tzahal contre un employé de l'agence belge de développement Enabel dans la bande de Gaza. S'en étaient suivies des condamnations internationales contre Israël. Or, une enquête menée par le Hamas lui-même assure que la personne ciblée par Tzahal n'était autre que l'un de leurs membres, Abdallah Dabkhan, affilié à la brigade du mouvement terroriste à Khan Younes. Avant de condamner Israël, les faits comptent des excuses public serait préférable, mais des excuses privées seraient également acceptées, affirme le communiqué des bureaux de la diplomatie israélienne à Bruxelles.
La rentrée s'annonce particulièrement chargée pour le gouvernement fédéral. Dès mardi, Bart De Wever ouvrira les discussions bilatérales consacrées au budget.
L'objectif est de trouver 10 milliards d'euros d'ici 2029 et de conclure un accord avant la mi-octobre. Plusieurs autres dossiers sensibles attendent la coalition Arizona. Le gouvernement doit régler ses divergences sur l'annualisation du temps de travail, examiner la vente d'une partie de Belfius à des investisseurs. Sur le front énergétique, les conclusions de l'audit consacré à la reprise des centrales de Tihange et de Doel par l'État sont attendues en octobre. Bpost doit de son côté économiser 150 millions d'euros en 3 ans. Autre source de tension, le futur budget européen qui pourrait alourdir la contribution belge de 3,4 milliards d'euros par an. La question des avoirs russes gelés reste également sur la table et le gouvernement devra se pencher aussi sur le sort d'une dizaine d'étudiants et chercheurs boursiers bloqués à Gaza, ainsi que sur les nuisances aériennes qui ont touché Bruxelles et sa périphérie cet été.
chef de la diplomatie luxembourgeoise Xavier Bettel dénonce l'impuissance de l'Union européenne face à Israël.
Réuni avec ses homologues en Irlande, il a comparé l'Europe à un chien qui aboie sans être capable de mordre. Le Luxembourg, la Belgique, l'Irlande, l'Espagne et les Pays-Bas soutiennent des restrictions européennes sur les produits provenant des implantations israéliennes de Judée-Samarie. L'opposition de plusieurs États, dont l'Allemagne, empêche pour l'instant toute majorité. Xavier Bettel a également déclaré que la responsabilité historique de certains pays envers Israël ne pouvait, selon lui, justifier la situation actuelle. Le Luxembourg envisage désormais, lui aussi, d'adopter des sanctions à son échelle nationale.
Arthur répond à l'antisémitisme par l'humour et la satire. Le producteur français vient d'annoncer sur Instagram la création d'Antisémite Park.
Le principe est simple. Pour chaque message antisémite reçu, Arthur promet de faire planter un arbre en Israël au nom de son auteur, accompagné d'une plaque portant son nom en hébreu. Une manière, explique-t-il, de transformer la haine en lumière et les insultes en une immense forêt. Arthur rappelle également que l'antisémitisme n'est pas une opinion, mais un délit. L'initiative a notamment été saluée par l'essayiste Rachel Kahn. Ce que fait Arthur, c'est remplacer cette volonté d'effacement par une volonté de racine. Il remplace la haine par un avenir positif. C'est la meilleure des réponses. Elle y voit aussi un beau pied de nez aux écologistes qui sont inféodés à la France insoumise. L'acteur espagnol pro-palestinien Javier Bardem appelle au boycott d'Adidas en raison de la participation d'un soldat israélien blessé dans une de ses campagnes de pub.
La marque allemande aux trois bandes a en effet choisi Shalev Biton, un ex-soldat de Tzal amputé de la jambe gauche, pour promouvoir un service destiné aux personnes n'ayant besoin que d'une seule chaussure. Déployée en Israël, la campagne présente le Single Shoe Service, une initiative permettant aux personnes amputées ou présentant une différence entre leurs deux pieds d'acheter une chaussure unique plutôt qu'une paire complète. Shalev Biton a perdu sa jambe gauche après avoir été grièvement blessé lors de combats près de la bande de Gaza. C'était en mai 2021. Cela n'a pas empêché l'acteur espagnol Javier Bardem d'appeler ses soutiens à la cause palestinienne à boycotter Adidas en raison de la participation de l'ancien soldat israélien à cette opération publicitaire. Plusieurs opposants à la campagne ont également comparé le traitement médiatique réservé à Shalev Biton à la situation des personnes amputées dans la bande de Gaza. Et on termine par une note positive. Près de 180 000 bébés ont été enregistrés en Israël au cours de l'année hébraïque 5786.
Ces chiffres confirment une nouvelle fois le dynamisme démographique de la population israélienne. En comparaison, le taux de natalité en Israël est presque deux fois supérieur à celui de la France. Jérusalem arrive très largement en tête de ses naissances avec plus de 23 000 nouveau-nés devant Bnei Brak, Tel Aviv et Beth Shemesh. Parmi ces nouveau-nés juifs, les prénoms masculins les plus donnés dans l'État hébreu sont Ariel, David, Raphaël, Lavi, Uri, Michael, Elia, Ethan, Yehuda et Ari. Du côté des prénoms féminins, les données révèlent que les prénoms les plus donnés aux filles, toutes populations confondues, sont Avigaël, Myriam, Lia, Libby, Tamar, Yaël, Ayala, Sarah, Ella et Noya. On vous demande comme question du jour pour demain, donner un prénom juif à ses enfants aujourd'hui en Europe, vous semble-t-il dangereux ?